Geek Actualité, semaine 7. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, qu'a-t-on au sommaire ?
Un joli petit sommaire avec quelques articles sympas.
Le Mac IT, financement de l'open source, le changement de licence Elasticsearch inquiète. Un article de Beth Parisot.
Alors ça, c'est pas super sympa en fait, non, j'ai abusé. Il se trouve que le grand méchant Amazon, eh bien, ils utilisent plein de logiciels libres dans leurs infrastructures.
Comme tous les GAFAM.
Plus ou moins, hein, il y en a qui font plus que d'autres. Et là, ils utilisent du logiciel libre en arrière-plan dans leur informatique en nuage. Et ils le disent pas forcément, et c'est pas forcément mis en valeur. Et les gens qui fournissent ces services-là, donc là, Elasticsearch, mais dans le passé, il y a eu MongoDB aussi, une base de données peu reconnue sur le web. Et ces bases de données, ces outils de recherche, eh bien, ils ont dit à un moment donné, bah, on n'aime pas être utilisés par les gens comme Amazon, sans que nous, on en retire quoi que ce soit. Et donc, ils ont changé leur licence. Ils ne sont plus libres, officiellement. Ils sont quasiment libres, mais non, pas tout à fait. Et parce qu'ils ne veulent pas qu'on profite d'eux.
Et du coup ?
Bah, du coup, bah, malheureusement, Amazon, ils ont forqué les dernières versions libres du logiciel et ils ont dit, bah, tant pis pour vous. Donc, c'est énervant. Je ne vois pas de solution à court terme ou à moyen terme.
Ça démontre que les rapports de force, on en reparlera sans doute un peu plus tard, ça reste quand même important. Et ça pose aussi la question de tas de logiciels qui sont développés, parfois même pas par des entreprises, mais par des particuliers, et qui galèrent et où tous les gens qui profitent de ça ne versent pas un centime. Et c'est un vrai sujet. ZDNet France, Health Data Hub, le choix initial de Microsoft Azure motivé par le besoin d'aller vite. Un article de Clarisse Treil.
Alors c'est intéressant, c'est un autre GAFAM, le dernier dans la liste.
Oui.
Et effectivement, bah, les données de santé des Français sont hébergées sur des serveurs de la société américaine.
Oui, alors ça fait grand bruit, on en a parlé pas mal
plein de fois
dans le podcast.
Et c'est énervant.
C'est énervant. Alors, ce qu'on apprend là, et on le sentait gros comme une maison, c'est qu'ils ont dit « Oh, c'est du pragmatisme parce que rien n'est prêt en France pour ça et on veut aller vite. » Donc, le pragmatisme, c'est vraiment la notion ultime pour faire les mauvais choix qui nous engagent et qui font que ça coûte une blinde. Donc, depuis, l'assurance maladie a dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, du coup, c'est quand même un acteur de poids dans le système en disant « Non, non, on ne veut pas mettre nos données là-dedans, ça va nous coûter une blinde, etc. »
Et peut-être que ça ne coûte pas très cher maintenant, mais à long terme, ça va coûter vraiment
trop. Oui,
en trop.
Tout cas, dans les estimations, c'est beaucoup plus cher, effectivement.
Qu'on arrête de mettre nos données de santé en dehors de l'Europe, là où elles sont à peu près protégées par les règlements et les lois.
Siècle digital, d'après l'Open Forum Europe, l'open source se relève lucratif. Un article de la rédaction.
Ça se relève et ça se révèle. Voilà. Donc bah là, c'est des questions de gros sous. Hein. Oui, il y a plein de boîtes qui font de l'argent avec l'open source, la version marketée, on va dire, du logiciel libre.
Sauf MongoDB et Elasticsearch.
Alors, bah, ils essayent, hein, mais oui, effectivement. Donc là, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop regardé. Il y a plein d'études qui sortent et qui disent « c'est bien, faites du libre, faites de l'open source ». En voilà une de plus.
France Culture, pourquoi les logiciels libres intéressent-ils les États ? Un article de Guillaume Herner.
Qui met en relation sur un podcast de France Culture. Donc, plein de discussions autour de la souveraineté et les logiciels libres. Donc, c'est plutôt pas mal. Et juste après, il y a... Alors...
Humanité.fr, informatique, libérons l'État des logiciels privateurs. Un article de Pierrick Marissal.
C'est le même genre de sujet, mais voilà. Là, bah, c'est un intervenant qu'on aime bien.
Oui, c'est une interview et c'est Étienne Gonu de l'April qui est interviewé par l'Humanité.
Donc, bah, rebelote, hein, ça parle souveraineté, logiciel libre, notamment.
Numérama, vous ne lisez pas les CGU, repérez ce qui a changé sur votre site préféré avec cet outil. Un article de Julien Lausson.
Alors, l'outil s'appelle Scriptamanent, c'est du logiciel libre et c'est mis en avant par des institutions françaises pour essayer de moins se faire avoir dans tout ce qui est effectivement conditions générales d'utilisation. Mmh. On en a parlé, il y a eu WhatsApp par exemple qui a changé ses conditions générales d'utilisation. Ça a beaucoup fait bouger les lignes sur l'usage des discussions en ligne. Ouais. Donc là, on a une petite facilité pour voir comment ça évolue et comment on se fait avoir, quoi, hein, rien de tel.
Et l'article sur lequel on va discuter aujourd'hui, notre sujet principal, Internet Actu, regouverner la nouvelle ère des licences libres. Donc un article de Hubert Guillot.
Alors, un long article en deux parties, et qui référence des textes universitaires, et qui a pas mal de choses intéressantes. Bah, une première approche, c'est qu'il y a un côté féministe qui vient mettre le doigt où ça fait mal. Dans la communauté du logiciel libre, il n'y a pas beaucoup de femmes, et il y a plein de problèmes en relation avec ça.
Alors, il n'y en a pas beaucoup dans l'informatique en général, hein. C'est pas particulièrement lié au libre. Alors, il y avait une étude il y a quelques années qui disait « Oh, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le libre ». C'est une seule étude dont la méthodologie était vraiment pas claire, donc bon, c'est très critiquable. Bon, en tout cas, c'est pas une donnée hyper fiable. En tout cas, on sait que dans l'informatique, il y a très peu de femmes. Donc l'article pose plein de questions qui sont intéressantes, notamment sur la remise en cause de la méritocratie, sur comment ça marche en vrai projet, puisqu'il y a plein de projets où il n'y a pas de règles. Et ça, c'est des choses qu'on a vues dans d'autres mouvements, hein, cette volonté de ne pas avoir de chef, de ne pas avoir de règles, personne n'est chef.
Oui, mais sauf qu'on le sait, il y a des gens, souvent des hommes d'ailleurs, qui sont des chefs et qui ne sont pas des
leaders,
chefs... Oui, oui. Alors, des dictateurs bienveillants, éventuellement, mais qui ne sont pas si bienveillants que ça. Quand on regarde leur comportement au jour le jour, ils sont même parfois très hostiles.
Oui, mais je dirais qu'en fait, dans n'importe quel milieu associatif, c'est comme ça. Hein. Bon, après, peut-être qu'on peut y croire. Je me souviens que le mouvement de Nuit Debout était beaucoup là-dessus. D'autres l'ont été, hein, les Gilets jaunes aussi, on dit « chez nous, il n'y a pas de chef ». Mais bon, alors moi, je suis un vieux con, hein, et je pense que les humains, d'une façon générale, fonctionnent en société et qu'il y a toujours quelqu'un qui va être leader, et avec plus ou moins de talent, et plus ou moins de bienveillance. Et dans Libre, comme partout ailleurs, on a des tas d'exemples de mauvais leaders et de gens qui sont des autocrates, etc., mais on ne nommera personne.
Voyons. Tant, moi, j'en vois des gens qui ont fait parler d'eux et dont on a discuté, qui ont essayé de faire changer leur comportement. Linus Torvald, par exemple, donc créateur de Linux, hein, un projet qui regroupe des milliers de développeurs à travers le monde, eh bien, il a fait son mea culpa, il a eu un travail sur lui-même, plus ou moins efficace, hein, il faut voir.
On ne connaît pas le résultat.
Il a l'air d'être un peu moins insultant, un peu moins agressif. Et puis, il y en a d'autres, Eric Raymond, Bruce Perens, qui, eux, revendiquent le droit aux gros mots, aux insultes, aux injures. Et ça fait tâche, hein. Et clairement, c'est pas politiquement correct.
Et bon, l'article est pas mal dans la critique de tous ces trucs-là. Pour moi, il est critiquable à bien des égards, même s'il pose des tas de questions qui sont assez intéressantes.
Moi, j'ai remarqué, ça m'a fait un petit peu bizarre, c'est qu'effectivement, tout de suite, ils indiquent le logiciel libre, c'est bien, le logiciel libre, c'est efficace, le logiciel libre, ça a largement gagné, hein. C'est-à-dire qu'il s'est imposé comme modèle de développement et même les GAFAM et les grandes entreprises du monde entier, les États, s'y sont mis. Mais le logiciel libre, ça ne veut pas dire que c'est éthique. Par exemple, on peut faire avec du logiciel libre des choses mal. On peut tuer des gens, on peut faire des guerres, espionner, on peut enfermer des gens, on peut torturer. Avec du logiciel libre, il n'y a pas vraiment de limite. Et effectivement, ça fait partie des règles qui l'instaurent, qui sont son fondement. On peut faire ce que l'on veut avec du logiciel libre, y compris des choses méchantes, quoi, pas sympathiques.
Déjà, le truc, c'est que dans l'article open source ou libre, c'est la même chose, hein, il n'y a pas cette distinction.
Il y a un peu de flou, entre les deux.
Oui, effectivement. Après, les principes du libre ne résolvent pas tous les sujets.
Enfin... Comment ça ? Quoi ? Quoi ?
Oui,
ce n'est pas la panacée qui va résoudre tous les problèmes du monde.
Or, c'est un peu ce truc où ils prennent le libre en disant « Ouais, ils ont ces prétentions de faire ceci, de faire cela, etc. »
De faire le bien.
De faire le bien, ouais. Et je pense que c'est absolument excessif et que ça n'a jamais été la prétention du libre.
Ou en tout cas pas du libre en... comme mouvance, quoi.
Oui, et de fait, quand on écoute Stallman, qui est clairement le plus rigoureux sur cette question-là, il ne parle essentiellement que de liberté. Or, la vie en société, ça n'est pas que la liberté. Donc lui est très centré sur les libertés. On rappelle le logiciel libre, le principe, c'est la liberté des utilisateurs. Donc du coup, il y a quand même cette idée que tout le monde doit être libre. Et nous, c'est la différence qu'on fait avec l'open source, hein, où effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les GAFAM utilisent massivement du libre pour enfermer les gens. Donc, même s'ils utilisent du logiciel avec des licences libres,
et qu'ils font du logiciel libre,
et bien, ils ne sont pas dans la philosophie du libre qui est là pour que tous les utilisateurs soient libres.
Je rajouterais, Stallman, il dit bien, les utilisateurs sont libres, mais ils sont égaux entre eux du point de vue des logiciels qu'ils utilisent, et ils sont fraternels parce qu'ils peuvent s'entraider les uns les autres.
Oui.
Donc, liberté, égalité, fraternité, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est le bien que prône Stallman, mais ce n'est pas non plus combattre la faim dans le monde avec le logiciel libre, faire en sorte qu'il n'y ait plus de corruption avec le logiciel libre, et que les femmes et les hommes soient mis sur un pied d'égalité.
Oui, oui.
Non, le logiciel libre n'a pas été fait pour ça au départ.
Après, il y a effectivement ce principe de liberté par-dessus tout, hein, qui est chez Stallman, et qu'on peut tout à fait discuter, critiquer.
C'est
ce qui se passe dans l'article. Mais pour moi, ils partent avec cette mauvaise idée que le logiciel libre a la prétention de résoudre tous les problèmes. Dans le logiciel libre, il y a cette idée de liberté par-dessus tout, donc y compris mettre du logiciel libre dans des missiles pour tuer des gens. Le logiciel libre, la première liberté, c'est on l'utilise pour ce qu'on veut. Et donc, oui, pour moi, le logiciel libre, j'ai toujours compris comme une sorte de plus petit dénominateur commun. Un exemple qu'on aime bien dire en conférence et qu'on a dit ici assez fréquemment, il y a des communautés de gens qui sont des anarchistes, hein, des purs anars, qui font du reconditionnement informatique, mettent du logiciel libre sur des PC récupérés pour les donner à bas prix à des gens. Et il y a des gendarmes qui utilisent du logiciel libre massivement, et ces personnes-là se détestent. Les gendarmes n'aiment pas les anars n'aiment vraiment pas les gendarmes. Et pourtant, le fait est qu'ils contribuent à la même chose. Et ils trouvent de l'intérêt à la même chose.
Alors, l'article continue et va plus loin, et il parle aussi, c'est très intéressant, des organisations et de leur structure, de leur manière de fonctionner, et il met en avant que, notamment, il y a des règles qui sont des règles soit implicites, soit cachées, soit méconnues des organisations dans lesquelles elles sont, et ces règles, ça donne lieu à des abus, des structures, des formes de pouvoir cachées, et il y a même un terme qui est mis en avant, qui est un peu original.
Alors, je fais un blocage dessus, donc il faut que tu le sortes, parce que chaque fois, je l'oublie.
C'est en opposition à institution, il y a les extitutions.
Voilà. Bon, alors déjà, dans l'article, ils disent que la notion d'extitution qui est proposée par deux universitaires est un peu floue. Bon, moi qui ai étudié un peu la sociologie quand j'étais étudiant, donc il y a longtemps, bon, l'idée qu'il y ait des règles officieuses et des règles officielles, et qu'il y ait même des règles dont on n'est pas conscience, c'est pas une idée neuve. Enfin, la sociologie des organisations, elle sait ça depuis très longtemps. Donc là, j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train de réinventer l'eau tiède en disant « Hey, vous savez quoi ?»
Il y a des règles cachées.
Il y a des règles cachées. Sur cette partie-là, bon, ok. Ce que j'ai trouvé un peu limité dans l'article aussi, c'est l'importance qu'il donne aux licences. Comme si le texte de la licence devait tout régler. Et je trouve que c'est assez naïf, finalement. Et ça fait le lien avec tous les codes de conduite qu'on peut voir qui sont proposés à droite à gauche.
Les chartes de bienveillance qui sont mises en avant par plein d'organisations en ce moment.
Voilà. Et pour moi, c'est bien d'avoir un texte. Et de fait, des textes de conduite, on en fait, soit des textes religieux qui existent depuis longtemps, des constitutions, des textes de loi. Et on voit que pour que ça marche, il nous faut toujours une institution de discussion, de commentaires, de négociation et d'arbitrage. Parce que les textes, voilà, tu fais un texte de bon comportement, la plupart des connards ne se sentent pas connards. Enfin, je veux dire, ils se disent pas, il y en a, ça existe, hein, mais c'est la minorité. La plupart disent, mais non, c'est une bonne blague ou ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc du coup, le fait que ce soit écrit dans le texte, c'est pas ça qui va empêcher les gens de se conduire comme des cons.
Alors moi, j'ai une façon de penser sur le sujet. C'est effectivement, faire des chartes, mettre en place des chartes, bon, c'est, en soi, c'est pas une démarche qui m'intéresse le plus, mais je suppose quand même qu'il y a quelque chose de bon à cela, c'est que la mise en place et la construction d'une règle de conduite ou d'un règlement intérieur, le processus lui-même peut être intéressant pour que les gens prennent un petit peu de recul sur leur comportement, leur manière d'aborder les choses, et que ça permette peut-être de trier un petit peu et de se rendre compte des problèmes. Donc je ne suis pas sûr qu'au final, la charte elle-même, elle ait une grosse valeur et qu'elle empêche aux cons d'agir, mais je suppose que la mise en place et la construction, le débat qui est autour, va être intéressant, et que ça va éventuellement faire évoluer les choses en bien.
Oui, oui. Mais c'est pour moi une des faiblesses de l'article, c'est qu'ils mettent tellement l'accent en disant « Regardez, les licences ne règlent pas tout, elles ne disent pas comment on doit se comporter. » Dans les projets, dans les gouvernances de projets, etc. Moi, je reste convaincu, et c'est vrai dans tous les domaines, que les individus dans les institutions qui font la différence... Alors, j'ai en tête un fait divers sordide sur lequel je ne m'étalerai pas, mais où il y a une jeune femme qui fait un procès à l'État parce qu'elle a subi des trucs abominables. Et en gros, il y a eu des signalements à répétition pendant toute son enfance. Et... les institutions de protection de l'enfance, etc., n'ont jamais bougé. Et il y a d'autres cas de ce type-là, et on voit avec les lanceurs d'alerte et ce genre de choses qu'en général, au sein des institutions, même sur des cas moins spectaculaires, c'est en général des gens qui se disent « non, je ne laisserai pas passer », qui s'appuient sur les institutions pour faire bouger les choses. Mais l'individu, la volonté, elle reste essentielle.
Alors il y a quand même quelque chose que moi je retire à la fin de l'article, qui est plutôt intéressant, qui semble-t-il, parce qu'on n'est pas forcément tombé dessus quand c'était sorti, en 2012, c'était l'index de gouvernance ouverte, et proposé par Liz Lafan, et qui a l'air de proposer une sorte de boîte à outils pour structurer des groupes humains, des groupes dans le logiciel libre notamment, en essayant de ressortir des types d'organisations que l'on peut mettre en place. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, le dictateur bienveillant, c'est un type d'organisation. Mais il y en a d'autres, il y a l'organisation de forme consensuelle, où on va chercher le consensus, où on peut aussi avoir une douocratie, c'est-à-dire l'organisation de ceux qui font. Donc il y a des bons points là-dedans, je trouve vraiment intéressant, j'ai été un petit peu me promener. On peut essayer de construire une structure d'organisation à l'avance en ayant un petit peu d'idées sur ce qui peut exister, les manières, les règles, les institutions qu'on peut mettre en place. Voilà, si quelqu'un enfreint, qu'est-ce qu'on fait ? C'est plutôt intéressant, on trouvait ça pas mal, éclairant.
Voilà, après pour moi, ça restera toujours des questions de rapport de pouvoir. Les institutions, les outils sont des outils. Après, ce sont des outils qui sont interprétés par les gens qui s'en saisissent. Et le logiciel libre a toujours été ça, c'est un des trucs aussi dont on n'a pas parlé, mais qui est faible là-dedans, où ils disent « Ah, le logiciel libre, ils ont délégué aux grandes entreprises et au capital l'économie. Dans le libre, il n'y a jamais eu de question d'argent, on a le droit d'en vendre, mais il n'y a jamais eu de modèle économique. » Et il y a toujours eu cette idée de « C'est libre, prenez-le si vous le voulez. » Or, on voit que, bah, effectivement, les GAFAM s'en sont saisis. Et bah, c'est plutôt, pour moi, un truc qu'on devrait constater comme une défaite et comme une insuffisance, ou comme une voie dans laquelle on devrait aller, en disant bah, « Regardez ce que Capital a été capable de faire en s'organisant, on devrait faire la même chose. »
Alors, sans aller jusque-là, moi, je pense que, bah, oui, effectivement, on a les principes d'un côté, on a le pragmatisme et l'économique de l'autre, les deux se mélangent au cas par cas, mais effectivement, il n'y a pas une ligne directrice pure, unique, ça va un peu dans tous les sens, mais après tout, c'est libre.
Donc, on a beaucoup critiqué cet article, parce que, de fait, je pense qu'il est très critiquable, mais... il a quand même cet avantage de débroussailler le terrain et de poser un certain nombre de questions. Et c'est toujours bon de se remettre en cause, même si la critique est pas nécessairement la plus pertinente.
Bon, sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
Oui, salut tout le monde.